C'est la semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada qui a fait des communications et une campagne, en fait, pour alerter la population face à vraiment la montée de la mésinformation et de la désinformation en ligne. On le sait sur les réseaux sociaux. Docteur Google, les moteurs de recherche, tout ça, plein de fausses informations qui circulent rapidement, puis qui sont amplifiées aussi par nos algorithmes, on s'entend quand même, là. Et je reçois la docteure Diane Francœur, qui est obstétricienne gynécologue. Bonjour, et aussi directrice générale de la société. Bonjour, docteur Francœur.
Bonjour, Monsieur Tremblay.
Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Tout d'abord, là, ben, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes et de personnes se tourner comme vers Docteur Google, comme je le disais, pour obtenir des réponses rapides. C'est quoi les risques de s'appuyer sur des contenus qui ne sont pas vérifiés quand il s'agit de santé sexuelle et reproductive, plus spécifiquement?
Bon, tout d'abord, il faut savoir que on a un peu mis la table. C'est tellement difficile d'avoir accès aux soins de santé au Canada que finalement, ben, c'est pas compliqué. La mésinformation et la désinformation, il y a une volonté de faire de l'argent derrière tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Donc, on a vu une chaise vide. Les femmes sont incapables d'avoir accès aux soins qu'ils ont besoin, d'avoir des conseils. Donc, on pousse du contenu qui vient de toutes les sources et qui n'est pas basé sur les évidences scientifiques. Et malheureusement, vous êtes un monsieur, je suis une madame. Les femmes sont très bonnes pour se sentir coupable de tout. Ouais. Et quand on parle de santé sexuelle et reproductive, ben, il y a beaucoup de honte associée à ça. Si on regarde des enjeux comme, par exemple, l'infertilité, là, c'est pas une tare, c'est une maladie. Alors, il y a 15% des gens qui sont infertiles, mais quand les femmes et les couples qui le vivent sont atteints, ben, malheureusement, ils n'osent pas toujours en parler, ils n'ont pas toujours les bonnes informations. Donc, c'est facile de leur faire acheter toutes sortes de produits, des thés, des vitamines, des ci, des ça, de leur faire croire n'importe quoi, parce que comme ils n'arrivent pas toujours à avoir une raison pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ils le prennent très, très personnel et malheureusement, ben, on ne va pas nécessairement aller valider les informations qu'on a eues. Donc, on s'aperçoit que la désinformation, c'est pour ça que nous, la SOGC, à l'automne dernier, on a pris une position pour dire que c'était aussi une forme de violence faite aux femmes, parce qu'on leur enlève leur capacité de faire les bons choix pour elles en leur remplissant le cerveau d'informations qui sont pas vraies. Et à ce moment-là, quand les femmes sont éduquées, elles sont les meilleures pour faire les meilleurs choix pour elles et pour leur famille, mais si comment ça fonctionne, les médias sociaux, c'est pas toujours tout le monde qui comprend comment ça marche, on en est parfois victimes, c'est qu'on nous amène dans un labyrinthe, dans une trajectoire qui nous montre toujours le même contenu, les mêmes réponses, les mêmes faussetés. Donc, on finit par croire que c'est vrai parce que tout le monde répète la même chose, mais c'est parce qu'on regarde pas l'autre côté.
C'est ça, c'est tout.
Du côté de la vérité, là.
C'est ça, on se fait créer finalement cette chambre d'écho autour de nous avec tout justement les cookies et tout ça qui nous identifie sur le web. Et comment selon vous, on peut aider, tu sais, si on se met un peu dans, OK, justement, aidons-nous à nous éduquer un petit peu plus, ou à éduquer les femmes, comme vous venez de le dire, comment on peut aider les femmes à distinguer ce qui est une source fiable d'information ou quelque chose qui est douteux et qui a des intérêts pécuniers, finalement.
Oui, tout à fait, parce que le contenu, la plupart du temps, va être poussé par des influenceurs. Les influenceurs sont souvent payés par un mode de rémunération qui est un peu comme la vente pyramidale. C'est que plus tu as des gens qui te suivent, plus tu vas être payé cher, plus tu vas être reposté par tout le monde qui sont dans ton réseau. Donc, eux, ils ont intérêt à avoir le plus de gens qui les suivent possible. Ils n'ont pas intérêt à dire la vérité. Et souvent, les femmes vont se faire un peu attraper, si on peut dire, d'une certaine façon, parce que les influenceurs vont s'habiller comme des professionnels de santé. Ils vont avoir des habits de salle d'opération, un sarrau, un stéthoscope autour du cou. Ils vont dire docteur. Et à travers toutes les professions, ben, il y a parfois des gens qui sont attirés par l'argent aussi. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que souvent, ils vont parler de choses extrêmement personnelles, comme les problèmes de santé sexuelle, les problèmes de en lien avec le désir sexuel, avec toute leur vie sexuelle. C'est que les femmes disent, ben là, si elle raconte tout ça devant tout le monde, ça doit être vrai. Alors, donc, ils vont chercher un certain capital de sympathie à dire leurs secrets et à aller chercher une crédibilité juste pour attirer les gens dans leur filet, puis pouvoir essayer de leur vendre quelque chose ou de soutirer les informations. Parce que là où il y a un danger pour les femmes souvent pensent que parce qu'elles vont pas mettre leur numéro de carte de crédit, qu'il n'y a pas de risque. Non, 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 vous avez déjà tout donné, là.
Oui, c'est ça.
Votre profil, là. Toutes vos habitudes de vie, votre poids, votre taille, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous magasinez, etc. C'est que vous êtes tout.
Vous envoyez les messages qui vont vous parler encore plus précisément. Je sais que la SOGC met à disposition plusieurs outils éducatifs et tout ça. Pouvez-vous nous parler un peu des ressources auxquelles on peut rediriger les femmes pour qu'elles s'informent mieux, justement?
Oui, absolument. Bien sûr, évidemment, je parle pour ma paroisse.
Ben oui,
allez-y. Qu'on fait dans la vie. Alors, la SOGC, nous, notre rôle premier, c'est d'éduquer les professionnels de la santé. Une science qui est toujours mise à jour, puis on en fait des outils éducatifs pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a pour les femmes dans les recommandations qu'on vient de faire? Je vais vous donner un exemple. Au mois de juin, on a fait des super belles lignes directrices sur comment on devrait s'occuper des femmes qui perdent un petit bébé au début de la grossesse. Mmh. Alors, on a fait interpeller les pilules abortives soient accessibles gratuitement, comme ça, elles n'ont pas besoin d'avoir un curetage. On a interpellé les employeurs pour que les femmes puissent avoir un congé maladie lorsque ça va pas. On a interpellé les hôpitaux pour être sûr qu'elles puissent avoir accès à un soutien de santé mentale. Donc, ces actions sont plus dirigées vers les femmes, mais qui sont aussi dans les recommandations pour ceux qui vont s'occuper d'elles, ben ça permet de valider qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. C'est-tu normal que je file pas après 2 semaines? Oui, c'est normal, parce que vous avez perdu un bébé, là. Ce petit bébé-là, oui, il faisait partie de la famille. Donc, on essaie de donner des informations qui sont... C'est pour ça que si vous allez sur notre site web qui est www.sogc.org, à ce moment-là, on a fait des sites web sur les menstruations, sur qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est enceinte, la ménopause, le VPH, etc., qui sont dans un langage à apprendre, puis qui est basé sur ce qu'on recommande aux docteurs. Donc, on veut que les docteurs et les femmes aient les mêmes informations, selon leurs besoins, pour que, comme ça, quand on a un rendez-vous, on peut se préparer, puis on peut poser des questions. Et puis, c'est important que les femmes comprennent lorsqu'on va leur recommander des traitements et qu'elles puissent choisir ce qui est mieux pour elles.
Donc, ce que j'entends quand on se pose des questions, évidemment, ben on essaie de s'éloigner un peu des réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise information. Internet d'organisme, ben, évidemment, celui de la SOGC, très intéressant. Il y en a d'autres, évidemment, de la santé publique, tout ça. Fait que d'aller sur le web, le vrai web et pas sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une bonne solution, peut-être, pour bien s'informer, c'est ça.
Les médias sociaux, c'est pas le diable, là. Parce que
non,
nous,
c'est sûr.
On s'en sert aussi pour faire la promotion. Par exemple, on fait des sommets grand public où on invite les femmes à venir rencontrer des experts puis poser leurs questions de patientes qui sont là pour rendre ça plus accessible, etc. Mais on peut, c'est correct d'aller voir, parce que comme je vous dis, les médias sociaux remplissent la chaise vide. Alors, la chaise vide, c'est que quand les femmes et les bébés sont couchés, là, ben il y a des cliniques qui sont toutes fermées, puis il n'y a personne pour répondre aux questions. Alors, elles vont aller sur les médias sociaux et à ce moment-là, avant de prendre une décision, il faut aller voir ce que les sociaux. Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Parce que malheureusement, il y a souvent des tiers qui sont derrière ça, comme tout la publicité négation.
Exact.
Ben, c'est des gens pro-vie.
C'est financé par d'autres intérêts, disons-le comme ça.
Bien sûr. Et donc, les femmes doivent savoir que si vous demandez à Jeannette Bertrand, qui a eu 100 ans, qu'est-ce qui a changé sa vie, elle a dit la pilule contraceptive, parce que j'ai pu commencer à avoir du plaisir en ayant des relations sexuelles sans avoir peur d'être enceinte.
Ben voilà. Je pense que ça peut pas mieux finir. Je vous remercie beaucoup. Moi, on va repartager d'ailleurs l'entrevue en entièreté, puis il y aura le lien vers le site de la société qui sera là aussi. Vous pourrez aller cliquer dessus.